avec vous, le dernier dimanche qu'on a vu ensemble, on s'était arrêté ensemble sur Galates chapitre 5 verset 22, on s'était arrêté sur le fruit de l'esprit, on avait vu déjà juste quelques textes qui nous parlent du fruit, on avait fait quelques parallèles avec le fruit, et j'insiste, la Bible dit que c'est Galates 5 22, c'est le fruit et pas les fruits. Le fruit, parce que dans un fruit, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs matières. On est d'accord, vous en souvenez ? Oui, hein, par exemple, il y a la peau, il y a la chair, il y a le noyau, et on avait fait ce petit parallèle très simple entre notre corps aussi, hein, notre corps, il est fait de peau, de chair, et de squelette, d'os, hein, Dieu, là on retrouve aussi une trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Et donc, on avait vu un petit peu tous les éléments qu'on pouvait trouver dans le fruit. Hein. Le fruit pouvait être beau. Encore, j'ai pris des. Je ne sais pas si vous mangez des fruits. Moi, je ne sais pas si ça se dit fructivore. Ça se dit. Ouais. Et je mange des fruits. J'aime les fruits. Et puis là encore, j'ai pris des pêches, il y a les pêches et puis les nectarines, je cherche le nom. Et elles étaient toutes belles. Et alors je me suis dit, tiens, je vais les laisser un petit peu mûrir. Et dès qu'on les laisse un peu mûrir, l'extérieur, il est encore. Et quand on coupe, c'était déjà esquinté à l'intérieur. Alors qu'on soit beau à l'extérieur et beau à l'intérieur. Bon à l'extérieur et bon à l'intérieur. Amen. On avait fait tous ces parallèles avec le fruit. On avait vu aussi ce que la Bible, une partie, parce qu'il y a beaucoup de textes qui parlent du fruit. On avait vu déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, que le Seigneur, c'est lui qui va créer la semence avec le fruit. Et ensuite, il y avait eu aussi le chapitre 3. On va y revenir tout à l'heure avec Adam et Ève qui ont succombé, qui ont désobéi et qui ont pris le fruit, etc. Et puis, il y a eu la sentence qui est tombée. Mais on va le voir avec la première matière du fruit. Hein. On a vu ensemble Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit, lui, il est amour, il va nous pousser toujours à l'amour. Amen. À l'amour de Dieu, à l'amour agapé. Je voulais juste ouvrir une toute petite parenthèse, là, cette semaine j'en ai parlé un petit peu aussi, et vous savez qu'il y a dans l'évangile de Jean, il y a ces trois formes d'amour, l'amour éros, bon, on passe, et puis il y a l'amour philéo, c'est l'amour humain, et je réfléchissais un petit peu, je me suis dit, mais la frontière entre l'amour humain et l'amour agapé, elle est très, très, très courte. Hein, elle est très courte, elle est très resserrée. Des fois, on peut confondre l'amour humain. Alors, on est heureux de se retrouver, vous voyez, dans la communion, etc. Mais ça peut être l'amour philéo, juste comme ça, parce que tu as passé des vacances, qu'est-ce que tu as fait, ceci, cela. Ça, c'est l'amour humain, hein, mais c'est pas l'amour agapé. Ce que Dieu veut, c'est l'amour agapé, l'amour qui se donne. Amen. Comme Jésus s'est donné, sans compter. Et ça, c'est le véritable amour. Et je crois que c'est bien de le rappeler aussi, parce que des fois, on pense que peut-être on est dans cet amour agapé, alors que c'est l'amour humain, l'amour d'un parent, d'un ami, etc. Ça, c'est une chose. Et l'amour agapé, c'est l'amour qui se donne. D'ailleurs, on va le voir dans quelques instants. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous remplit de l'amour de Dieu. Vous savez qu'il y a une différence entre le premier commandement et le plus grand commandement. Le premier commandement, il rentre dans les 10 commandements. Vous vous rappelez dans Exode chapitre 20. Je ne vais pas vous demander de citer les 10 commandements. Vous rappelez des 10 commandements? Exode 20. Hein, et le premier commandement commence avec « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Le deuxième, c'est « Tu ne te feras pas d'image taillée ». Ni de représentation quelconque. Le troisième, tu ne prononceras point le nom de l'Éternel en vain. Le quatrième, c'est ça, on l'observe, on devrait l'observer, et il faudrait l'observer, c'est observer le jour du repos pour le sanctifier. Hein. Pour nous, eh bien, c'est le dimanche, on le sanctifie, on est dans le Seigneur. Ensuite, il est question de d'honorer, oui, tu ne prendras pas, tu observeras le jour du repos. Cinquième, c'est tu honoreras ton père et ta mère. Cinquième, sixième, tu ne tueras point. Septième, tu ne commettras point d'adultère. Huitième, tu ne déroberas point. Ouais, voilà. Neuvième, tu ne prononceras point de faux témoignages. Et le dixième, tu ne convoiteras point ni la maison de ton voisin, ni la femme de ton voisin, ni l'âne, ni le bœuf, etc. Enfin, bref, tu ne convoiteras point. Ça, ce sont les 10 commandements, mais il y a le plus grand des commandements. Vous savez qu'à un moment donné, les hommes de la loi sont venus vers Jésus et ils diront, mais quel est le plus grand commandement? Et Jésus dira dans Matthieu chapitre 22, vous connaissez le plus grand, ça c'est le plus grand ça. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et un autre passage dit de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Amen. Et ton prochain comme toi-même. Et il dit de ces deux commandements dépendent toute la parole de Dieu, toute la loi et les prophètes. Et quand il parle de la loi et des prophètes, il parle de toute la parole de Dieu. Et qu'on soit animé vraiment, et que ce ne soit pas que des mots. Vous savez, prêcher sur l'amour, certainement vous l'avez entendu parler, prêcher des dizaines et des dizaines de fois, mais c'est bien de le savoir, c'est bien de connaître les versets. Et je le dis souvent, mais ce qu'il faut, c'est surtout le vivre, le mettre en pratique. Hein, parce que connaître, on va le voir tout à l'heure, la connaissance, elle enfle, mais l'amour, entre autres, édifie. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1er. On a besoin de pratiquer la charité, de pratiquer l'amour. Ça, c'est le plus grand des commandements. J'avais pris cet exemple qu'on connaît bien dans le plus grand des commandements. Un homme de la loi vient dans Luc chapitre 10 concernant la parabole du bon samaritain. Ça commence avec ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Tu connais les commandements et l'homme de la loi dira oui, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Jésus lui dit, fais cela et tu vivras. Et lui, pour se justifier, il dira, mais qui est mon prochain? Et c'est là que Jésus parle de la parabole du bon samaritain. Je relisais, il y a de quoi, il y a de la matière dans l'histoire du bon samaritain. Et vous rappelez, le sacrificateur, l'homme qui est au courant des choses de Dieu. Je dis, quand même, cet homme est au courant, il est sacrificateur, et il est là à la tête du peuple, et il passe outre. Vous savez, c'est cet homme qui est resté à demi-mort, qui a été maltraité par les brigands, il passe outre. Que Dieu nous garde, hein. Que Dieu nous garde la religion, parce que c'est exactement ça. Il est passé outre, il n'a pas tenu compte de cet homme qui est à demi-mort. Ensuite, le Lévite, pareil, qui ont des tâches sous la loi, ils avaient des tâches importantes, avec des règles, etc. Et il passe outre, et puis il y a ce fameux samaritain qui voit cet homme, il s'arrête, il pense les plaies, hein, il prend de l'huile, il prend du vin, il y aurait tellement de choses à dire sur l'huile, sur le vin. Il le met sur sa monture. Moi, quand je repense à ce passage, il le met sur sa monture, il lui donne sa propre monture. Hein, et ensuite, il arrive à l'hôtel, il paye l'hôtel. Et il dit, mais si quand je reviens, si je te dois quelque chose, hein, vous en connaissez beaucoup, hein, qu'on puisse être à l'exemple du bon samaritain. Et Jésus dira, ben voilà, cet homme a manifesté la compassion, a manifesté l'amour, toi fais de même et tu vivras. Hein. Alors c'est vrai qu'on les connaît ces textes hein, sur la parabole, etc., du bon samaritain, mais qu'on puisse vraiment vivre ces choses-là, qu'on puisse les vivre et les appliquer. Parce qu'on va le voir dans quelques instants, l'amour au jour d'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, pardon, c'est pas tout à fait ça. Je pensais, quand on regarde la parole de Dieu, vous allez me dire, oui, mais il y a quand même des histoires où il y a des guerres, les villes sont passées par le fil de l'épée, etc. Mais quand même, c'est la lettre d'amour. Hein, je regardais un petit peu les sondages, c'est le livre qui est encore le plus vendu au jour d'aujourd'hui. C'est encore le plus vendu. La parole de Dieu. Et quand on lit la création, on retrouve encore la marque de l'amour de Dieu. Hein. Il va nous créer, je relisais ces passages dans le chapitre 1er, il va nous créer, si ce n'est pas une marque de son amour, ça, il va nous créer à son image. Je ne sais pas si on... Hein, il nous crée à son image selon sa ressemblance. C'est ce que je disais tout à l'heure, en une trinité, corps, âme et esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il nous crée à son image. Il nous donne toutes les facultés. On n'a pas été, voilà, on n'est pas le Big Bang de quelque chose. Non, 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 on était créé à l'image du Seigneur. Amen. Et on sait ce qui va se passer. Hein, je le citais tout à l'heure avec le fruit. L'homme, il va pécher, la femme va pécher. Et là, on voit encore l'amour de Dieu. Dans ce fameux verset 15 du chapitre 3 du livre de la Genèse, où Dieu dira, mais la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et là prophétiquement, il y a la venue de Jésus, il y a le sacrifice de Jésus, si ce n'est pas une preuve de son amour. Alors c'est vrai qu'il y a eu la conséquence. Pour les douleurs de la femme, hein, etc., etc. Mais quand même, c'est une preuve de son amour. Hein, la parole de Dieu, c'est une preuve de son amour. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Il aurait pu se détourner. J'ai relevé ce verset dans Ésaïe chapitre 54, verset 8. Il aurait pu se détourner, le Seigneur. Ésaïe 54, 8, il est dit ceci. « Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec... un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » Je pensais encore à ce fameux texte de Jérémie aussi, Jérémie chapitre 31, verset 3. « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Amen. Qu'on soit animé de cette bonté et de son amour. Malgré nos fautes, on l'a entendu dans les prières, et moi le premier aussi, malgré nos fautes, on sait quand on faute, on sait quand ça ne va pas dans notre vie, mais malgré cela, le Seigneur, hein, heureusement, c'est David qui dit dans un psaume, le psaume m'échappe, mais il dit, il ne nous traite pas selon nos iniquités, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, Dieu a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Et je crois qu'on a besoin aussi de se rappeler qu'il ne nous traite pas comme nous on pourrait traiter, se traiter ou alors traiter les autres. Limite, on peut, pour traiter les autres, c'est facile. Hein. Se traiter, non. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Nous, on s'aime bien. Et si on s'aime bien, on doit aimer aussi notre prochain comme nous-mêmes. Ce n'est pas toujours évident. Hein, hein. Je pensais à ce passage où il est question de l'amour du Seigneur dans Jean chapitre 13, verset 1er, vous savez, verset 1 et 2, quand il est dit, Jean 13, c'est les dernières paroles de Jésus, les derniers discours de Jésus. Il va mettre le comble, vous vous rappelez de ce passage? Il va mettre le comble à son amour. Il va se... cindre d'un linge, il va se déshabiller, il va se cindre d'un linge. Et quelle leçon, là! J'ai prêché ça la semaine dernière, vendredi dernier, à la Seyne-sur-Mer, sur ce verset, Jean 13, 35. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. » Je m'étais arrêté sur ce verset. Et en fait, j'ai réalisé ce chapitre 13. Je ne vais pas vous reprêcher ce que j'ai prêché, mais là, comme le texte s'y présente, il va laver les... Jésus savait que parmi les apôtres, il y avait un traître. Il lave les pieds, du traître. Vous rendez compte? Quelle leçon d'humilité. Et il sait, quand on lit le chapitre 13, je ne vais pas m'y arrêter, mais il sait. Ensuite, il est dit que Satan lui-même rentra. Quand on étudie quand même le chapitre 13, c'est Satan, ce n'est pas un démon qui est rentré, c'est Satan lui-même qui est entré en Judas. Et il savait tout ça, le Seigneur. Et malgré cela, il leur montre ce qu'est un disciple. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez. Un disciple, c'est celui qui a de l'amour pour son prochain. Si vous avez de l'amour, et Jésus est en train de montrer ce que le véritable amour, là, quand il lave les pieds, et il y a quelle leçon d'humilité aussi. Moi, que ça reste gravé dans mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. Hein. Qu'on reste dans l'humilité. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Ne pensons pas que Dieu va oublier, mais Dieu il fait grâce aux humbles. La Bible dit que Jésus était doux et humble de cœur. Et si on est rempli de cette humilité, à l'exemple du Seigneur dans Jean chapitre 13, versets 1 et 2, il va mettre le comble à son amour. Et il dira, et je vous laisse un exemple, ça ne veut pas dire qu'il faut se laver les pieds. Hein. C'est pas ça. Quand on lit le texte, il dira, je vous laisse un exemple. Il y en a qui le font, mais bon, je suis pas trop d'accord. Hein. Mais c'est un exemple d'humilité. Un exemple d'humilité. Hein. Et que Dieu nous remplisse de son humilité. Et il va se ceindre de linge et il va s'abaisser. La Bible dit que celui qui s'abaisse, il sera élevé. Celui qui s'élève, il sera abaissé. Garde-nous toujours, Seigneur, dans l'humilité. Amen. Je vous partage simplement là. Garde-nous dans l'humilité. Si on reste dans l'humilité, Dieu va agir dans nos vies. Dans Jean chapitre 15, il est question de demeurer aussi. Vous savez, Jean 15, c'est quand il est question du vrai cep. Jésus dira, je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Hein, bientôt, c'est les vendanges. Hein. Et il dit ceci au verset 9, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour, demeurez, restez. Restez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Demeurer, c'est rester. On a besoin de demeurer. Je pensais à ce passage, ces textes dans les épîtres de Jean. Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Et il dit ceci, juste quelques versets qui résume un petit peu aussi l'amour. Dans Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, versets 14 et 15, regardez ce qu'il dit. Ce verset m'a interpellé. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Souvent, on l'entend dans les prières. Je te bénis, Seigneur, parce que je suis passé de la mort à la vie. Mais quand on regarde le verset, passer de la mort à la vie, c'est aimer son frère. Là, on est passé de la mort à la vie. Sinon, on n'est pas passé de la mort à la vie. Hein. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Alors, des fois, on prend les phrases qui nous intéressent, mais je crois qu'il faut toujours rester dans le contexte de la parole. Verset 15, quiconque... Et son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Il dit au verset 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner, c'est ça le véritable amour. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Pour les frères. Verset 18, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action avec vérité. C'est facile de dire, hein, je vous aime, mais ce qu'il faut, on va le voir dans quelques instants, ce qu'il faut, c'est les actes. Hein. C'est facile de dire à quelqu'un, je t'aime, mais s'il n'y a pas la suite, s'il n'y a pas les actes, hein, c'est que des paroles. Et il dit, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action. Et avec vérité. 1 Jean 4, 17, on le chante. 4, oui, 1 Jean 4, ouais, bon, je vais vous le lire. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte et la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit, on connaît ces textes par cœur, hein, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas, hein, on a besoin aussi de... C'est la base, l'amour, hein, frères et sœurs. C'est la base. On peut faire beaucoup de choses. On va le voir. Je vais un peu vite, hein, mais on va le voir. Hein. On peut perdre l'amour. Hein. C'est vrai qu'on peut perdre l'amour. Il y a plein de textes. J'ai relevé comme ça quelques textes. Je vais juste les citer. Je vous donne les références si vous voulez. Matthieu 24, 12. Parce que l'iniquité sera accrue. Vous vous rappelez de ça? Et ça nous parle du retour de Jésus. Ça nous parle de notre époque, frères et sœurs. Parce que l'iniquité sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et on le voit. C'est un amour égocentrique. D'abord moi et après les autres. Et dans la fin des temps, c'est ce que dit Paul. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, etc., etc. Et donc on peut. Hein, parce que l'iniquité sera accrue. L'amour du plus grand nombre. Il y aura un refroidissement. Et là, il parle de ce qui va se passer au sein du peuple de Dieu. 2 Timothée chapitre 4, verset 10, « Démas m'a abandonné », vous vous rappelez de ces textes, « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent ». Il a préféré le monde, tout simplement. Hébreux 13, 5, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent ». 1 Timothée 6, 19, 21, « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». Quelques-uns en étant, et il va loin, quelques-uns en étant possédés, hein, en étant possédés. Hein. Alors bien sûr, hein, je le dis quand je parle de ça simplement, et de l'argent il en faut, il n'y a pas de souci, Mais il ne faut pas que l'argent, ce soit notre Dieu. Et aujourd'hui, vous connaissez ce proverbe, l'argent, c'est le nerf de la guerre, de la guerre. Et voilà, Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs viennent percer, mais amassez-vous un trésor dans le ciel. Amen. Dans l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 17 à 27, il est question du jeune homme riche. Je l'ai vu après, mais il est dit dans ce passage que Jésus va l'aimer. Là, il y a une question d'amour aussi. Jésus va l'aimer et il dira, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle ? Va vendre tous tes biens et distribue-le aux pauvres. Et, voilà, et ça a été la catastrophe. Hein. Il est reparti tout triste. Et je disais qu'on peut perdre, qu'on peut faire beaucoup de choses, même dans l'Église, frères et sœurs, sans amour. Je pensais à ce passage de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Vous savez, l'Apocalypse 2, chapitre 2 et chapitre 3, ce sont les sept églises, les sept périodes de l'histoire de l'Église. Et la première période, c'est l'Église dite apostolique, qui correspond à l'Église d'Éphèse. Et qu'est-ce que dira le Seigneur ? Le temps me manque pour vous le lire, mais vous le lirez. Je sais que tu as de la persévérance, que tu ne supportes pas ceux qui se disent apôtres, que tu as éprouvé les méchants, etc., etc. Que tu as de la persévérance à deux reprises, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire quoi ? Moi, c'est pas besoin de faire de grandes études. Hein. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux faire beaucoup de choses, mais s'il manque l'essentiel, s'il manque le plus important, mais ce que j'ai contre, il dit va, ce que j'ai contre toi quand même. Pourtant, si on avait une église comme ça, hein, qui persévère, etc., qui a du discernement et tout, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour et que le Seigneur nous remplisse de son amour. Alors, c'est très simple ce que je vous dis, hein, mais s'il n'y a pas ça, il n'y a rien du tout. Hein. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit dans Hébreux 13, 1, « Persévérez dans l'amour fraternel, que ce ne soit pas que des mots. » L'amour, c'est important ça. Hein, on a besoin de cet amour fraternel. S'il n'y a pas l'amour fraternel, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ce n'est pas un copain, c'est l'amour fraternel. Des fois, on devrait retrouver cet amour dans l'Église. Et des fois, on ne l'a pas dans notre propre famille. Je ne sais pas, des fois, il y a des maris inconvertis, des épouses inconverties, des enfants, etc. Il n'y a pas cet amour. Et cet amour, on doit le retrouver dans l'Église. Amen. Persévérer dans l'amour fraternel. Et juste, ça me vient à l'esprit, s'il est question de persévérer, c'est que des fois, ce n'est pas toujours facile. Mais l'auteur dit persévérer, c'est-à-dire continuer, insister. Un Thessalonicien, il est question de continuer. Paul dit ceci dans Romains chapitre 12, verset 10, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns envers les autres. » Pleins d'affection. Par amour fraternel, soyez plein. Vous savez, quand on dit de quelqu'un, ça me fait sourire, quand on dit de quelqu'un qu'il est plein, bon, ça peut être péjoratif, hein, mais là, soyez plein, c'est-à-dire plein d'amour fraternel les uns envers les autres. Soyez débordants de l'amour fraternel. Colossiens, chapitre 3, versets 13 et 14, sont des textes clés, ça. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres, et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Et ensuite, il dit au verset 14, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Il classe l'amour au-dessus encore. Supportez-vous, mais revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Soyons liés. Dans le bon terme de la parole, soyons liés dans cet amour. Romains chapitre 5, il est question aussi du Saint-Esprit qui est lié à l'amour. Romains 5, 5, il est dit ceci, l'amour de Dieu, vous vous rappelez de ce passage, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui répand son amour dans nos cœurs. Amen. Je disais tout à l'heure, je l'ai cité 1 Corinthiens 8:1, quand il est dit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Il y en a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Pierre dit ceci, encore un texte, allez, excusez-moi de le souligner, 1 Pierre chapitre 1 verset 22, il dit ceci, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Et là le texte est fort, avoir un amour fraternel, sincère, parce qu'on peut avoir un amour, mais qui n'est peut-être pas sincère. Et justement, Paul reprend ceci dans Romains 12, 9, et il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Vous voyez ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il peut y avoir un semblant d'amour, mais derrière... Alors, j'ai regardé la définition d'hypocrite. Hypocrite, c'est fourbe, caché. En latin, c'est hypo. Hypo, ça veut dire bas. Quand on est en hypo. Hein ? Moi, j'étais opéré de la thyroïde, deux cancers de la thyroïde, et pendant un temps, j'étais en hypo, j'avais plus de force. Il y a hypo et hyper. Alors après, il faut trouver le bon cachet, la bonne dose. Mais en hypo, c'est bas. Et voilà, c'est tout ce qui est bas, tout ce qui est vil. Hein, et on retrouve donc dans l'hypocrisie, hypo, hein, fourbe cachée, etc. Enfin, il y a tellement de synonymes d'hypocrite. Alors après, vous avez, je vais terminer par là, vous avez le chapitre de l'amour. Vous connaissez 1 Corinthiens, c'est presque ça. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Vous voulez qu'on... Vous avez vos Bibles juste pour... Là, il y a des dizaines de messages là, dans ce passage. 1 Corinthiens 13. C'est là qu'on voit que l'amour est au-dessus. Quand il dit « Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, la langue des anges et des hommes, c'est, il est question de la vie de l'esprit. » D'ailleurs, il le dit au verset 31 du chapitre 12, « Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Et la voie par excellence, c'est celle qu'il est en train de mentionner là, c'est l'amour. Il le place au-dessus. Il dit « Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si j'ai pas l'amour, on peut parler, être baptisé dans le Saint-Esprit avec une langue terrestre ou avec une langue céleste. C'est ce qu'il veut dire là. Je parlerai la langue des hommes et des anges. Si j'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, sonne creux. Hein? Et quand j'aurai le don de prophétie, pourtant il va loin là. Hein? La science de tous les mystères. Toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, ça c'est des sacrifices, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Ensuite, il dépeint ce qu'est l'amour. L'amour est patient. Amen. Il est plein de bonté, etc., etc., etc. Trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, que Dieu nous remplisse de cette charité et que le Seigneur nous remplisse de son amour. Paul dit ceci, ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu, mais au contraire, son esprit vous remplit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Hein, qu'on puisse être rempli de la charité du Seigneur. Voilà, je termine avec, je l'ai cité tout à l'heure. Dans la première épître de Jean, Jean dit ceci, chapitre 4, verset 17, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Le jour où on va passer devant le Seigneur, eh bien, là on aura de l'assurance si on manifeste cette charité, si on manifeste cet amour. Que Dieu nous aide. Voilà, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Prochaine fois, à notre occasion, on s'arrêtera sur la joie.